Bonjour Caroline et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
À 19 ans, il a passé 2 ans et demi dans le fameux centre de détention de Guantanamo. Avant ça, il s'était laissé entraîner par son grand frère en Afghanistan pour y faire un stage, un peu comme une année Erasmus, version djihad. Il y a croisé des célébrités, enfin devenues célèbres quelques mois plus tard, comme Ben Laden par exemple. En rentrant en France, après ses 2 ans et demi de détention, le gamin de la cité des Minguettes a encore purgé 2 ans de prison. Il a déposé ensuite de nombreux recours auprès de la justice internationale pour détention abusive à Guantanamo et auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre sa condamnation pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Lui ne se voit pas comme un repenti, il se voit plutôt comme quelqu'un qui a été embrigadé. Ensuite, il a écrit un livre, il a eu un enfant, il s'est séparé ensuite de sa femme, il a travaillé un bout de temps comme carreleur. Maintenant, il est au chômage, il faut dire qu'il passe désormais une grande partie de son temps bénévole à sillonner la France. Il intervient dans des collèges, des lycées, sur les bancs de la fac ou dans des associations de quartier. Il y raconte son histoire dans le but de dissuader ceux qui pourraient être tentés par l'aventure. Pour dessiller les jeunes, Mourad Benchelali essaie de ne pas être dogmatique, dans un autre sens, mais de rendre les choses ce qu'elles sont, c'est-à-dire complexes. En tout cas, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, de Guantanamo à Vénissieux, c'est la 3e partie de cette série, signée Olivier Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc tu as 19 ans, début 2001, il y a un de tes proches qui te dit voilà, il faut que tu ailles en Afghanistan pour améliorer un petit peu le rapport à ta religion, c'est ça? Mais toi tu te dis non, moi je suis pas allé pour ça, je suis allé pour l'aventure. Tu peux un peu nous en parler de ça ou...
C'est-à-dire que, bon, bien sûr aujourd'hui on se dit, il nous raconte qu'il est parti en Afghanistan pour des vacances, pour l'aventure, mais on va pas en Afghanistan pour des vacances. Souvent on me dit, mais tu voulais des vacances, pourquoi t'es pas parti au Baléares? C'est vrai, le problème c'est qu'au Baléares, tout le monde pouvait y aller.
C'était en 2009 que j'avais rencontré Mourad Benchelali. Nous avions fait 2 émissions avec Nizar, son co-détenu de Guantanamo. Il m'avait raconté le parcours qui les avait conduits dans la prison américaine après un voyage en Afghanistan à l'été 2011 sous l'influence du grand frère de Mourad.
J'étais un gamin, il me racontait simplement ça au quartier, aux gamins, en disant bah t'as vu, moi j'étais en Afghanistan, ah ouais, l'Afghanistan. À l'époque, c'était un truc de fou, quoi, d'aller en Afghanistan.
J'avais trouvé leur récit sincère, singulier et déjà historique. Je voulais prendre de leurs nouvelles depuis un petit moment.
Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais c'était quand même un contexte qui était particulier. C'est-à-dire qu'il y a
j'ai pas réussi à recontacter Nizar, qui ne veut visiblement plus s'exprimer. Par contre, j'ai recroisé plusieurs fois Mourad lors de différents reportages aux Minguettes, à Vénissieux. Mourad, lui, n'est pas avare de paroles, on le voit souvent dans les médias, et il parcourt la France pour partager son histoire.
Oui, c'était une erreur. D'ailleurs, si c'était à refaire, je le referais pas.
Je le retrouve donc à l'espace Nelson Mandela de Gennevilliers. Il vient rencontrer des jeunes de cette ville de la banlieue parisienne où a été enterré un des frères Kouachi.
Bonsoir à toi, et merci pour ta présence. J'avais juste une petite question. Tout à l'heure, tu parlais de la série. Quelle est ta vision et qu'est-ce que tu peux apporter aux jeunes, les conseiller? Je te remercie.
Alors, moi je suis juste là pour raconter mon histoire. Bon, évidemment, mon but c'est de dissuader des jeunes de partir.
Depuis 2009, la situation de Mourad ne s'est pas améliorée. À l'époque, il avait été relaxé, mais d'appel en cassation, lui et Nizar ont finalement été condamnés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'erreur de jeunesse, comme il dit, est donc inscrite définitivement dans leur casier judiciaire.
Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire, comme travailler dans la fonction publique, être gérant de certains types d'activités. Enfin, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Et puis, évidemment, bon, il y a la surveillance. J'ai été faire mon pèlerinage, par exemple, à la Mecque. C'était en 2010, je crois, en 2011. Et puis là, à mon retour, j'ai eu pas mal de personnes de mon entourage qui ont été convoquées en me demandant mais qu'est-ce qui se passe avec Mourad, pourquoi il va faire son pèlerinage, qu'est-ce qu'il fait, etc. Enfin, donc c'était un peu gênant quoi, pour mon entourage, même mon ex-femme aussi qui a été convoquée. Quand je voyage, je suis toujours le mec qu'on met de côté à l'aéroport, quoi. Le mec qui va passer 2 heures. Après, il y a certainement des pays dans lesquels je pourrais plus aller. Les États-Unis, à mon avis, ça risque d'être compliqué. et du coup toujours censé de se justifier. C'est ça qui est un peu relou, quoi. On a l'impression de jamais en sortir, en fait. Je suis considéré pour beaucoup de gens comme un ancien djihadiste. Ça crée de la suspicion, de la méfiance. J'inquiète plus que je rassure, quoi, en fait, les gens. J'ai même des gens qui ont des réactions en disant « Mais pourquoi est-ce que tu es encore en liberté, toi ?» qui estiment qu'on devait me briser, quoi, par rapport à ce que j'avais vécu. Beaucoup de personnes pensent que à partir du moment où on a été sur une terre de djihad, on ne peut plus en sortir, on est forcément radicalisé à vie, quoi. Alors que c'est plus compliqué que ça.
Bonsoir. En fait, ma question, c'est quand vous êtes le retour en France, comment ça s'est passé? C'était pas trop dur quand même d'avoir vécu déjà des moments comme ça à Guantanamo? C'était pas trop dur quand même le retour en France, avec toutes les questions que la famille vous a posées? C'était pas trop dur quand même? Que ce soit les proches extérieurs ou les connaissances, c'était pas trop dur?
Alors, quand on a eu un parcours comme le mien et qu'on en sort, quand on arrive à en sortir en tout cas, alors il y a déjà les traumatismes psychologiques, parce que moi j'ai vécu la torture, tout ça, etc. Donc psychologiquement c'était difficile, donc j'avais besoin de voir un psy, quoi, de sortir tout ça. Et puis surtout, j'avais besoin de me reconstruire, de trouver un boulot, un job, un logement, etc. Mais j'ai trouvé personne pour m'aider à ça. C'était très difficile en tout cas de trouver des gens. Enfin, il y en a eu après, et c'était pas nombreux d'ailleurs, mais... Donc personne m'a aidé, j'ai été livré totalement à moi-même.
Je fais plus ces cauchemars que je pouvais faire au début.
Et c'est vrai que
le stress que j'avais, l'agressivité, des choses que je pouvais éprouver au départ, des choses que je vis plus aujourd'hui. Donc je pense que de ce côté-là, je m'en suis sorti, quoi. Après, inconsciemment, je suis enfermé dedans. C'est-à-dire que Guantanamo, il n'y a pas un jour sans que j'en parle, en fait, en réalité. Alors que je fais plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que principalement, mon activité, c'est Guantanamo. C'est-à-dire que je suis souvent invité à en parler. La preuve aujourd'hui... J'y suis toujours dedans, en fait.
Merci pour votre présence. Et par exemple, si vous aviez une fille ou un garçon qui voudrait faire la même expérience que vous, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les empêcher d'aller gâcher votre vie? Parce que, entre guillemets, vous avez eu, je mets des guillemets, la chance d'être prisonnier, et donc du coup, ça a sauvé votre vie, parce que vous auriez pu avoir un destin beaucoup plus tragique.
Ouais.
Donc voilà, quel est l'argument que vous utiliseriez? Voilà, merci.
Si mon fils me dit « Papa, je veux défendre les Syriens », je vais lui dire « Mon fils, tu es susceptible de te retrouver complice d'exactions. C'est possible. Mon fils, tu vas te faire embarquer par des groupes qui sont en réalité politiques. Tu vas nous mettre dans la détresse. Donc comment est-ce que tu peux aller vouloir aider les autres alors que tu nous mets dans la détresse ?» Et puis je vais lui dire « Mon fils, tu sais que quand tu vas revenir, voilà ce qui t'attend. »
J'ai un petit garçon. C'est un garçon de 8 ans qui vit avec sa maman, mais que je vois assez régulièrement. Alors, il est un peu jeune pour lui expliquer les choses dans le détail, mais en réalité, je ne lui en parle pas pour l'instant. J'attends qu'il m'en parle, lui. Parce que moi, c'est des choses que j'ai vécues aussi, ça. Mon père était imam à la mosquée du quartier, à Vénissieux. Et puis surtout, il avait une association, il faisait de l'humanitaire. À l'époque, c'était en Bosnie, pour la Bosnie, avec d'autres habitants du quartier. Il emmenait des vêtements, des médicaments. Et puis, lors d'un dernier voyage, il s'est fait arrêter par les Serbes, qu'il avait accusé d'aider la rébellion, d'aider les Bosniaques, quoi. Qu'il était là, venu aussi pour combattre, etc. Du coup, il a été fait prisonnier. Moi, je voyais à l'époque mon père comme un héros, hein. J'avais 13 ans. Pour moi, c'était. Il faisait de l'humanitaire. Et ça m'a beaucoup marqué. Moi, en lisant les articles qui parlaient de ça, j'ai vu qu'il avait été si maltraité, torturé. Enfin, beaucoup de choses qui ressemblaient d'ailleurs à mon expérience, bizarrement. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que moi, inconsciemment, je ne me suis pas retrouvé dans cette situation parce que j'avais pas pu en parler avec mon père, ou est-ce que c'est pas un héritage que lui m'a laissé? Je ne sais pas, en fait. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a le comité de soutien. Mon père aussi avait eu le sien. Il y avait la mobilisation de la mairie, du maire d'ailleurs. C'était le même maire. Je me souviens quand il est venu à la maison à l'époque. Les démarches avec le Quai d'Orsay aussi qui négociait son rapatriement. La médiatisation aussi. Enfin, il y a toutes ces similitudes qui m'ont toujours fait réfléchir. Ça a toujours été troublant pour moi. Mais lui m'en a jamais parlé. Moi, mon père, c'est pas, j'ai jamais eu beaucoup de dialogue avec lui, quoi. C'est comme ça.
Et ça a pesé sur moi. Et donc, ce n'est pas une chose que j'ai envie de faire vivre à mon fils. Je lui en parlerai, évidemment, je lui raconterai, je lui expliquerai tout. Qu'il puisse dire, oui, c'est vrai, mon père était détenu de Guantanamo, mais voilà ce qu'il en a fait, il en a fait quelque chose de bien, etc. J'ai envie qu'il soit plutôt fier de son père, quoi.
J'avais une question, en fait, à 19 ans, du coup, avant de partir, vous étiez étudiant ou...
Alors, moi, j'étais agent de vie sociale, j'étais agent de médiation.
Et du coup, vous viviez avec vos parents à cette époque-là?
Oui.
Et vos parents, ils vous ont pas empêché de partir là-bas ou...
Alors, mon grand frère m'a dit, tu dis pas à papa, maman, que tu pars en Afghanistan, ça va les inquiéter. Tu leur dis que tu vas en Syrie. C'est à l'époque, la Syrie. À l'époque, la Syrie, c'était bien. À la Syrie, il y avait une grande université à Damas, c'était bien la Syrie. Donc j'ai dit à mes parents que je partais en Syrie, pour ne pas les inquiéter. Les personnes, en tout cas, qui vous embrigadent, vous conseillent de ne pas informer vos parents.
Je me suis toujours identifié aux jeunes qui partaient. Ça a commencé très tôt, ça a commencé quand j'étais à Fleury-Mérogis, quand je parlais avec des jeunes qui me voyaient comme un héros. Eux, ils étaient convaincus que j'avais combattu, que j'étais un djihadiste, quoi. Il me disait, c'est bien, t'es un moudjahid, tu faisais le djihad et tout, c'est bien. Moi aussi, j'ai envie de faire comme toi. Dès que je sors de prison, ça me dirait de partir et tout, bah raconte-nous. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que je devais leur expliquer. Ça a pris encore plus d'importance pour moi quand j'ai vu l'âge de plus en plus avancé des jeunes qui se retrouvent dans cette situation. On a des gamins de 15 ans aujourd'hui. Voilà, ça me touche de plus en plus, quoi, c'est des gamins.
En fait, je voulais dire, est-ce que vous étiez, c'est comme dans les prisons d'ici, est-ce qu'il y a des portes ou il y a des barreaux?
À Guantanamo?
Par exemple, ouais. Est-ce que c'est des chambres avec la porte et il y a les matons qui tournent? Ou est-ce que c'est où il y a les barreaux, là? Comme on voit dans des films.
C'est une bonne question, ouais. Ça, c'est une très bonne question. C'est ce qui est comme dans les films, c'est la tenue orange.
Connaître les tenants et les aboutissants d'un conflit, ça demande quand même une certaine culture. Un gamin de 15 ans, franchement, de faire la différence entre Jabhat al-Nusra, l'État islamique, les rebelles syriens, c'est très compliqué, c'est très complexe. Moi, c'est ce que j'ai découvert en Afghanistan, comme conflit. Donc, c'est ce que je leur explique aux jeunes. Eux, ils pensaient qu'en Afghanistan, les talibans combattaient contre des Américains, par exemple. Puis je leur expliquais, non, ils combattaient contre des anciennes massoudes. Les anciennes massoudes, c'était aussi des musulmans, c'était aussi des Afghans. Donc, c'est une chose qu'ils avaient du mal à comprendre. Et je leur dis, vous savez, la Syrie, c'est la même chose aujourd'hui. Puis je leur raconte cette anecdote aussi de deux jeunes Marocains qui sont partis du Maroc, ces deux amis d'enfance, qui sont partis aussi, eux, dans l'idée d'aller combattre en Syrie, et puis qui arrivaient en Turquie, ils se sont séparés, ils se sont retrouvés, au bout de quelques jours, l'un combattant contre l'autre.
France Culture, les pieds sur terre.
Toi, t'es John Villiers?
Oui.
Pourquoi t'es venu aujourd'hui particulièrement?
Parce que tout ce qui est histoire de Guantanamo, guerre, 11 septembre, terrorisme et tout ça, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de terrorisme qui mettent des vidéos de haine. Personnellement, moi je vois ces vidéos. Des fois, je ressens de la haine. Donc je comprends ces jeunes qui veulent partir. Par exemple, de ce qui s'est passé en juin-juillet, en Syrie et tout ça. Des vidéos comme ça, des vidéos d'enfants qui se font tuer par des soldats, des bouts de bras, des bouts de tout ça. La vérité, j'ai ressenti de la haine, parce que franchement, ça se fait pas, c'est des enfants, je vois pas pourquoi ils s'attaquent à des enfants et à des femmes. Donc franchement, ça m'a mis en colère, mais en même temps, je me sens incapable de faire quelque chose. Parce que j'ai 19 ans, je suis une fille et je pourrais jamais aller au djihad par exemple. Je pourrais pas combattre. D'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai su, les femmes, elles sont là-bas juste pour soigner, pour donner à manger et tout ça. Et les hommes, ils vont vraiment combattre.
Mais si t'avais été un mec, tu serais prête à aller combattre?
J'aurais plus réfléchi à ça, mais je pense pas. Je pense pas, parce qu'il y a toujours ma mère derrière ça. Donc, franchement, la vérité, moi, ma mère, je suis sa seule fille. Elle a jamais été mariée, elle m'a adoptée. Je pourrais pas la laisser. Elle a tout fait pour moi pour la laisser comme ça, sans nouvelles, sans rien du tout, sans qu'elle sache où je suis. Je pourrais pas. Rien qu'à l'idée d'imaginer ça, je pourrais pas.
On les attire surtout sur l'aspect du djihad dans son côté lutte pour les opprimés. Ils sont convaincus d'y partir pour la bonne cause, pour faire le bien, pour faire l'humanitaire. Moi, j'ai parlé avec des parents dont les enfants sont partis en Syrie. Ils m'ont dit, mes enfants, c'est ce qu'ils m'ont raconté avant de partir. Parce qu'on vous dit au début, c'est bien d'être venu, il y a d'autres jeunes comme toi. Enfin, on fait passer l'Afghanistan pour une colonie de vacances. Et puis on vous apprend le maniement des armes, les explosifs. Enfin, moi, je raconte ce que j'ai vécu au camp d'entraînement. d'Al-Qaïda. Après, on vous explique que les attentats suicides font partie de la religion, que c'est un outil de défense comme un autre. Enfin, on arrive à vous rendre légitime des attentats suicides, c'est quand même incroyable. Enfin, on bascule dans le terrorisme même sans s'en rendre compte. Et puis, les personnes qui vous embrigadent, c'est souvent celles qui vous utilisent aussi comme chair à canon. Parce qu'elles se réfugient sur leur rôle de recrutement, en se disant, ben non, nous, on a un rôle de recrutement, donc nous, on passe pas à l'acte, c'est les autres. Et donc, bien sûr qu'on est manipulé. Bien sûr qu'on utilise l'empathie qu'on peut avoir pour les musulmans. Moi, on nous faisait visionner des vidéos de propagande déjà à l'époque, en camp d'entraînement. On nous montrait des victimes palestiniennes et tout, en nous disant ben, qu'on va, nous, être les défenseurs de ces gens-là. Et ces jeunes, c'est pareil avec la Syrie. L'idée de l'État islamique, c'est de faire d'eux des nouvelles recrues. Hein. C'est pas d'en faire des Che Guevara ou des Nelson Mandela. Donc en réalité, les raisons sont politiques. Le religieux, c'est toujours le prétexte, l'argument qu'on utilise pour légitimer un certain nombre de choses, voire même d'exactions. On a quand même l'État islamique qui décapite, qui tue les chrétiens, etc. Donc, je leur explique aussi qu'ils bon, ils sont susceptibles de se retrouver complices de tout ça.
Une question.
Quand vous étiez dans les camps d'entraînement, vous dites que chaque soir, vous regardez des vidéos de... Ils vous montraient des vidéos et je pense qu'il y a des vidéos qui vous ont touché et qui vous ont marqué. À aucun moment vous avez eu de la haine envers les Américains ou les Juifs ou, vous avez ressenti de la haine envers eux?
Alors, j'ai toujours essayé de prendre du recul. Il n'y avait pas que ces vidéos, il y avait plein de choses que je trouvais injustes. Par exemple, les bombardements. Quand les Américains ont bombardé, une fois ils ont bombardé un village à Jalalabad. J'ai eu 150 victimes. C'était que des enfants, des femmes, des enfants, un village entier rasé. Donc quand on voit ça, c'est difficile de ne pas trouver ça injuste. Mais quand j'étais par exemple à Guantanamo, il y avait des militaires qui me disaient « Moi je me suis engagé dans l'armée parce que j'ai vu les deux tours du 11 septembre s'écrouler. » Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué, j'étais très en colère. Et je voulais défendre ma patrie. Et puis on m'a dit surtout à Guantanamo, il y a les pires des terroristes. Et puis quand je suis arrivé en prison, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Quand je parle avec toi, je vois bien que t'es pas fou, quoi. T'es pas le dangereux terroriste qu'on a décrit. Et puis, ce que t'es en train de vivre, c'est injuste. Et quand je vais rentrer aux États-Unis, je vais raconter tout ça. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qu'on a su sur les conditions de détention à Guantanamo. C'était des gardiens qui ont raconté, qui ont dénoncé. Voilà. Moi, je suis jamais parti du principe que c'était les gentils et les méchants. Et ça m'a encore conforté dans cette vision du monde, quoi.
J'ai parlé avec Nicolas Hénin, qui est un ancien journaliste qui était otage de Daesh, qui me raconte que lui aussi, quand il était otage, on l'avait habillé en orange et qu'on l'avait fabriqué une espèce de mini Guantanamo. Où on lui expliquait que si on le traitait de cette manière-là, c'était aussi pour venger les anciennes Guantanamo. La tenue orange, quand on décapite aussi un journaliste, c'est aussi pour faire l'analogie avec cette prison. Une espèce de sentiment de malaise, parce qu'on se dit, oulala, moi, on a l'impression de salir ce que nous, on a réellement vécu. Et qu'on a le sentiment d'être soi-même instrumentalisé. Ceux qui font ça semblent vouloir dire « Nous, on fait ça pour défendre les détenus de Guantanamo. En gros, on fait ça pour défendre Mourad et les autres Mourad. Et moi, je ne veux pas qu'elle m'utilise moi pour le faire. » Ça montre bien qu'une démocratie, quand elle s'éloigne de ses valeurs ou quand elle va sur le même niveau moral que ses ennemis, c'est les conséquences que ça peut avoir, quoi. J'ai toujours milité pour la fermeture de Guantanamo, mais aussi pour dire que ça peut être aussi un argument de recrutement, un argument qu'on pourrait utiliser.
Je suis venu pour savoir comment ça se passe quand on va là-bas, faire le djihad et tout ça. Et les médias, ils en parlent beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Parce que les médias, des fois, ils aggravent les choses. Et avoir le point de vue de quelqu'un qui a vraiment été, et aussi savoir si c'est bien ou pas. Je suis musulman, donc c'est exactement la même religion que la mienne. Sauf que j'ai été élevé de manière à ce qu'on me dise « se battre, c'est mal, la guerre, c'est mal, tout ça, c'est mal ». Et en grandissant, je vois que d'un autre côté, ils disent il faut faire la guerre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Avoir quelqu'un qui vienne vous dire qu'il faut pas le faire et qui vient le montrer aux jeunes, c'est une bonne chose. Maintenant, on peut voir les djihadistes, ils sont sur Internet. Les jeunes, ils restent la plupart du temps sur Internet. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à attirer de plus en plus de jeunes. Ça peut être lié à un ressenti par rapport à une inégalité. C'est-à-dire, en tant que musulman, on se sent un peu quand même inférieur.
Je pense pas qu'il y ait de plus en plus de racisme, mais je pense qu'il est de plus en plus visible et que les gens sont de plus en plus décomplexés par rapport à ça. Enfin, moi, je peux prendre l'exemple, par exemple, de mes sœurs. Mes sœurs, elles portent le voile. Et je sais que pour elles, c'est un problème. Elles ont du mal à le vivre. Elles sont même parfois même persécutées par rapport à ça. Ces derniers temps, en France, par exemple, on a beaucoup instrumentalisé l'islam, c'est-à-dire qu'on a parlé des questions liées à l'islam, que ce soit le halal, les prières de rue, la burqa, le voile, comme si l'islam était un problème. Et ça a fabriqué dans la conviction de beaucoup de jeunes musulmans, de jeunes français, qu'on ne pouvait pas être à la fois un bon français et à la fois un musulman, que comme si sa religion posait un problème. Et puis ils ont de moins en moins le sentiment d'avoir leur place ici en France. Et donc, quand on a des déclarations de politique, comme Estrosi, par exemple, qui s'en prennent systématiquement à l'islam, aujourd'hui, on sait que Nice faisait partie d'un des plus gros contingents de jeunes qui partent. Moi, j'y vois personnellement une raison de cause à effet. Mais à plus grande échelle, même au niveau national, on a eu des Zemmour, on a eu des Houellebecq, on a eu des Marine Le Pen, on a eu des gens qui passent leur temps à taper sur l'islam. Évidemment que ça participe au ressentiment. Et évidemment que ça donne des billes aux recruteurs comme Daesh, comme les groupes les plus extrémistes, en disant, bah, vous voyez, on a raison. Quand on vous dit qu'ils vous détestent pour votre religion, quand on vous dit que ce sont des ennemis de l'islam, ici vous aurez votre communauté, fuyez ces islamophobes, quoi.
Alors il y a quatre questions, et après je pense qu'on s'en arrêtera là. Il y en a une au fond, là, depuis tout à l'heure, il nous la demande, et ensuite il y en a une par là, et une là, et là-bas. Voilà.
Ouais, rapidement, parce qu'il s'impatiente, le chef. Là. La campagne vidéo du gouvernement pour dissuader aux jeunes de partir, vous pensez qu'elle est efficace?
Moi, je ne pense pas qu'un jeune va chercher les infos dans un site gouvernemental. Après, je ne veux pas cracher dans la soupe. Moi, je préfère ça que la garde à vue ou la prison, quoi, si vous voulez.
J'ai des témoignages de parents dont les enfants sont revenus de Syrie et sont en prison aujourd'hui. Sa mère qui me raconte, elle me dit, mon fils, il dit, on veut faire de moi un terroriste. Parce qu'il est détenu en prison, et puis il y a l'isolement et tout ça. Il dit, on veut faire de moi un terroriste, on veut faire de moi un monstre. D'autant plus que c'est lui, à son retour de Syrie, qui a été voir la police, qui a été se livrer en disant, voilà, moi j'ai eu cette erreur de parcours, mais moi je veux m'en sortir. Et aujourd'hui, pour les jeunes qui veulent s'en sortir, il n'y a rien qui est mis en place. À part la prison... que là, pour le coup, on en fait des bombes à retardement, et dans les années à venir, oui, on est en train de repousser le problème. On part du principe qu'il s'est radicalisé, qu'il y a un point de non-retour, qu'il, de toute façon, ne peut plus jamais en sortir de cette radicalisation. Moi, je pense que c'est faux. Que l'islam radical, ce n'est pas une maladie contagieuse qu'on a attrapée et dont on ne guérit jamais. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'on peut revenir sur ses idées. On peut partir du principe que c'était une erreur. Au Danemark, on a un centre, par exemple, de déradicalisation qui marche assez bien. Donc, c'est des jeunes qui est justement une alternative qu'on leur propose, hein, d'abord. Donc, pour ceux qui le désirent, ils vont dans un centre de ce qu'on appelle un centre de déradicalisation. Donc, on les aide psychologiquement, etc. Et même d'un point de vue religieux, s'ils veulent débattre sur certains points sur lesquels ils sont en désaccord par rapport à la religion, par rapport à tout ça, ils peuvent le faire. Et a priori, ça marche plutôt bien. Pour moi, ce qui peut être l'alternative à la prison est bien, est une bonne chose.
Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Ben, en fait, c'était juste des petites questions par rapport aux Américains. C'est eux-mêmes qui vous ont attrapé en Afghanistan. Si vous avez senti, en fait, quand ils vous ont attrapé, vous ont rapatrié à Guantanamo, si vous avez senti s'il y avait une petite théorie du complot, parce qu'on entend des histoires un petit peu confuses. Par rapport au terreau, etc. Et on voulait savoir si les Américains, ils avaient à voir derrière tout ça, en septembre.
Moi, je me suis toujours méfié des théories du complot. Moi, je sais pas, j'ai pas vu de complot particulier. Après, Ben Laden, il existe déjà. Je l'ai vu. Donc déjà, ça enlève déjà un complot. Voilà.
On s'en arrête là? Moi, j'ai juste à dire merci. Merci, Mourad.
Ce que j'explique souvent quand on m'invite dans des conférences, des choses comme ça, je vais passer par exemple 2 jours avec eux, du coup ces 2 jours je peux pas faire autre chose quoi, donc du coup j'ai pas de revenus, donc ils sont assez compréhensibles et souvent on me donne une petite contribution quoi. Mais en même temps pour moi c'est pas naturel comme démarche de demander de l'argent pour ça. J'ai du mal à le faire. Mais je me rends compte que je suis obligé. Pour l'instant je suis RSA. J'essaie de faire des chantiers de carrelage le week-end quand j'ai le temps, quand je peux. Pour gagner un peu d'argent, mais il va falloir que je fasse un choix, en fait.
T'imagines faire complètement autre chose ou...
Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il va falloir que je la tourne définitivement, cette page. Alors, ça se fermera peut-être quand la prison sera fermée. Peut-être qu'à ce moment-là, ça y est, ce sera la fin. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On verra.
Merci, Mourad.
زمان اريد تزالي والنرسوز رام ماني ريح ماني مقيح ورسلس وحيات تسا اينو ترمي ورسلس تار غيلي اجران اجران غالي ريح ناني لا تفوت أرسل فيه غالي ريح ناني لا تفوت زماني غزيف غزيف دنيت مماني ريح ماني موقيح ناني
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre de Guantanamo à Vénissieux, 3e partie, avec Mourad, un reportage d'Olivier Minot, réalisé par Marie Placet. Merci à Mourad, à Leïla Chaibi, à Farid Diab et à l'espace Nelson Mandela de Gennevilliers. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous écrire et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à notre page Facebook ou notre compte Twitter, Les Pieds sur Terre. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Restez à l'écoute de notre chaîne. Il n'y a pas que Les Pieds sur Terre.